Alors, nous voilà de retour aux amateurs de sport week-end. Le Canadien ce soir qui affronte les Maple Leafs de Toronto après une semaine sans avoir joué. On rejoint tout de suite Martin McGuire. Salut Martin.
Allô Jérémy.
Écoute, c'est rare dans une saison de hockey qu'on t'entend un petit peu moins. Même nous, à sortie de zone hier, on a fait vraiment une émission où on a parlé un peu plus de ce qui se passait ailleurs dans la Ligue nationale, étant donné que le Canadien n'avait pas joué. Mais là, ça repart de plus belle et on espère revoir le Canadien du début de la saison. Et la bonne nouvelle, c'est que je pense qu'on va retrouver des gars qui récemment, ont connu des moments un petit peu plus difficiles avec, par exemple, Paul Byron qui a été placé au ballottage et aussi du côté de notre ami le Tuna qui avait été laissé à l'extérieur de l'alignement samedi soir contre justement les Maple Leafs. On devrait le retrouver lui aussi. Donc parle-nous un petit peu de ce qu'on devrait voir ce soir.
Bien évidemment, tu l'as dit en introduction, je pense que j'oserais dire quand même une certaine surprise, l'insertion de Paul Byron sur le quatrième trio. Byron va patrouiller l'aile gauche, donc en compagnie de Jake Evans et de Arturi Lehkonen. Mm-hmm. Mais quand on y pense un peu, Jérémy, c'est quand même un timing assez intéressant pour le placer dans l'alignement. Avant de faire entendre l'explication de Claude Julien, je peux te donner quelques pistes en te disant que Byron, on le sait, c'est un joueur émotif. Et dans les derniers jours, il a vécu certainement des émotions. C'est un gars qui s'est bien comporté tout au long de la semaine comme un pro, malgré la situation, malgré le fait qu'il fut placé sur l'équipe de réserve. Il a tout de suite tombé en mode « OK, je reste sur la glace après les pratiques avec les jeunes et tout ça ». Il a vraiment démontré une bonne attitude et publiquement aussi, quand on lui a parlé, tu sais, ça a été le Paul Byron qu'on connaît, c'est-à-dire le gars qui va se battre pour essayer de regagner sa job. Alors, dans cette optique-là, c'est une bonne décision de Claude Julien. Je vais te faire entendre l'entraîneur là-dessus.
Écoute, on prend des décisions, Martin, à tous les matchs là, avec un surplus de joueurs. Là, puis c'est que dans notre cas, nous, c'est une décision qu'on a prise de mettre Paul à l'alignement. Puis on a un back-to-back. Puis demain, on va regarder notre line-up une autre fois. Puis on va prendre encore une autre décision.
Alors, deux en deux, puis on parlait bien sûr de ce calendrier extrêmement chargé à compter de ce soir. Jérémy, c'est une séquence de 41 matchs, ce qui reste à la saison, mais ça va se jouer en 78 jours. Alors, tu sais, quand on parlait de la fameuse profondeur du Canadien, là, je pense qu'elle va être testée et je pense que là, ça va être utile. Alors, tu sais, dans ce sens-là, je pense que déjà demain à Ottawa, est-ce qu'on pourrait insérer un gars comme Perry, retirer Byron, peu importe là, ce qu'on va faire. Mais il reste une chose, c'est que tout le monde va avoir la chance de jouer, là, probablement.
Petite question là, avant de fermer sur Paul Byron. Est-ce qu'il y aurait eu moyen, étant donné que là, on veut le relancer, on veut tourner la page, est-ce qu'il y aurait eu moyen de le placer sur un autre trio que le quatrième, juste pour voir si ça pouvait générer une étincelle ou quelque chose?
Ça va peut-être arriver, Jérémy.
Ah oui?
Écoute, je répète encore, ils sont vraiment à une blessure, puis là encore là, je veux pas conjurer le sort, là, mais ils sont à une blessure d'être obligés de changer quelques combinaisons. Et Paul Byron, on le sait, moi j'aime utiliser cette image-là dans son cas. Moi, je l'ai toujours appelé un peu le basilic, c'est-à-dire que t'en mets partout, puis c'est très bon. Alors, tu sais, Paul Byron qui regagne sa vitesse va être un bon joueur si justement tu te fais blesser un gars dans le top 6. Là, à ce moment-là, tu bouges tes trios et t'as besoin de la polyvalence de Byron. Ouais. Alors, tu sais, vraiment, pour l'instant, le quatrième trio, je pense que c'est sa chaise dans les circonstances, mais il n'y a rien comme de forcer Claude Julien à lui en donner un petit peu plus, là, par contre.
Bon, Martin, quand on regarde l'alignement, j'en parlais un petit peu avec Max tout à l'heure en début d'émission. Ceux qui ont peut-être mis le hockey en veille pendant une semaine, étant donné que le Canadien ne jouait pas, puis ce matin, ils sont allés cliquer sur le site de la Ligue nationale pour se remettre un peu dans le bain, puis là, ils se sont rendus compte que le Canadien avait 8 points de retard sur les Maple Leafs. Ouais. Le Canadien a quand même plusieurs matchs en main, mais est-ce qu'il faut déjà commencer à oublier les Leafs parce qu'ils commencent à s'échapper du peloton? Je pense que tu en as parlé aussi un peu avec Tyler Toffoli. Toffoli, que c'est pas encore nécessairement fini, là, cette histoire-là.
Non, absolument pas. Et avant de te faire entendre Toffoli, je veux quand même te dire, Jérémy, que comme tu joues à l'intérieur de la même division, tu sais, quand ce soir, là, c'est le fameux match de 4 points. Là.
C'est vrai.
Si le Canadien gagne, tu enlèves 2 points à tes adversaires. Alors, tu sais, 8 points dans le contexte où tu restes à l'intérieur de ta division versus le contexte où tu aurais vraiment là, les 31 équipes qui s'affronteraient en rotation, comme c'est toujours le cas. Là, là ça pourrait être différent. Tu sais, parce que 8 points, normalement, c'est assez confortable pour garder ton avance. Mais... ouais. Il suffit que t'en perdes 3, là, puis que les Oilers puis le Canadien se mettent à gagner en dessous, là, puis là, t'as un portrait complètement différent. Alors, je pense que le Canadien est encore dans le coup par rapport aux Leafs, mais en même temps, ce qui arrive là est pas tellement loin des prévisions d'un peu tout le monde. Tu sais, les Leafs, c'est pas pendant les 56 matchs réguliers que va être leur enjeu. C'est quand ces matchs-là vont être finis puis qu'on va entrer en série. Parce qu'honnêtement, là, avec la puissance qu'ils ont, les Matthews, les Marner, les Nylander qui connaissent d'excellents débuts de saison, Morgan Riley et compagnie, puis plus de profondeur encore à la défense, tu sais, on savait bien que c'était pour se passer de même. Ouais. Ce qui va être intéressant, c'est peut-être qu'à compter de ce soir, espèce d'animosité qui existe entre le Canadien et les Sénateurs va peut-être un peu se transposer entre le Canadien et les Leafs. On va écouter Tyler Toffoli qui nous dit « Dans le dernier match, on a commencé à se donner des petits coups. »
Yeah, I mean, I think last game slowly kind of turned into it. It felt like there were more hits and things are getting a little... more rough than the first time we played against them. So I think this is what the fourth time we're going to play against them, and we have 5 more or whatever it is. So it's getting there. And I mean, everybody looks at the standings. Everything's so close. So we need the 2 points here tonight.
Alors, mon cher Jérémy, là, la rivalité là, puis l'animosité entre Montréal et Toronto, que les réseaux de télévision canadiens qui ont mis des millions là-dedans il y a une couple d'années souhaitent, je t'annonce qu'elle va peut-être arriver. Tu sais, vraiment, là, même si les Leafs ont 8 points d'avance, là, ça va peut-être commencer tranquillement, pas vite, parce que moi, je suis d'accord avec Toffoli. Dans le dernier match, on a commencé à se passer le gant en face un petit peu, ce qui est coutume contre les Sénateurs, mais ce qui l'était moins face aux Leafs.
Oui, tu as raison de le mentionner, mais on attend depuis tellement longtemps ce fameux affrontement canadien-Maple Leafs en match éliminatoire. Puis dans les dernières années, on est passé près à quelques reprises. Là. Ça s'est joué lors du dernier week-end de la saison régulière, à savoir est-ce que le Canadien allait se retrouver contre les Maple Leafs. C'est pas arrivé,
non.
Mais ça pourrait. On est déjà en train de mettre la table pour ça, là.
Ah ben ça c'est clair, puis tu sais, c'est quelque chose auquel tout le monde rêve à quelque part, là, parce que ça fait longtemps qu'ils se sont pas vus ces deux équipes-là, parce que dans les années où les deux équipes étaient bonnes, en même temps, ben je rappellerai aux plus jeunes, parce que les plus vieux s'en souviennent, mais aux plus jeunes que les Leafs étaient dans la conférence de l'Ouest. Alors c'est pour ça qu'ils se croisaient pas, là. Ils se seraient croisés en finale de la Coupe Stanley, mais les Kings sont venus contrecarrer les projets des Maple Leafs de Toronto.
Ouais.
Alors, écoute, il y a encore des possibilités pour que ça arrive, mais je pense qu'on va peut-être avoir un avant-goût de ça à compter peut-être du match de ce soir entre les deux équipes.
Bon, je sais que tu as un extrait de la part de Zach Hyman qui parle un peu du même sujet.
Oui, exactement. Du côté des Leafs, là, c'est sûr que eux ont pris note là, que les affrontements s'accumulent contre le Canadien, et en même temps, il y a un peu d'émotivité qui va rentrer là-dedans. Et Hyman est un des joueurs qui est capable de générer ça. On va l'entendre.
Yeah, I think they always are hot. I mean, I think that rivalry is one of the greatest in sports. So anytime we play those guys. You want to win, and they want to win, so it's always a battle, and it gets amplified when we play them 10 times in a year and when we're 1-2 in the standing. So, yeah, definitely.
Alors, les ingrédients sont là, 1 et 2 dans le classement. Ils veulent gagner, on veut gagner. Il y aura au total, on le sait, là, 9 affrontements entre ces deux équipes-là. Alors, évidemment, Jérémy, les ingrédients sont là pour qu'on ait du hockey émotif.
Bon, écoute, je voulais te poser une question parce que cette semaine, je lisais un texte, je pense que c'est sur Sportsnet. Tu sais, on a tous dit que la division canadienne, c'était pour un an seulement. Là, il y en a qui commencent à dire, écoute, c'est tellement bon, on peut pas défaire ça. Oui, ce sont des longs voyages et tout ça. Regarde, il y a des équipes là qui ont joué, là, qui arrivent au tiers de la saison. Il y en a même qui ont dépassé le tiers de la saison.
Ouais.
Comment tu trouves que ça se passe jusqu'à maintenant, logistiquement parlant? Est-ce que ça se tient? Est-ce qu'on peut pensez que ça, on pourrait garder cette formule-là plus que au-delà de cette année, ou est-ce que vraiment, parce que c'est une courte saison, on va on risque de bien s'en tirer, mais après, ça risque d'être compliqué, là?
Écoute, personnellement, je pense que ça va être comme comme certaines pièces de musique. Je pense que ça va avoir été un one-hit wonder. Okay. Parce que c'était pratique pour la COVID. C'était pratique pour sauver de l'argent. C'était pratique pour faire en sorte que on ne soit pas dans l'obligation de carrément annuler une saison. Parce que, tu sais, si les, essayez d'imaginer si les clubs canadiens s'étaient promenés aux États-Unis, là, on voit chez les clubs américains ce que ça a donné, là. Ça aurait été épouvantable. On se serait probablement même pas rendu jusqu'au bout. Après avoir dit ça, Jérémy, quand le Canadien se promène, là, puis qu'ils s'en vont à New York et qu'ils s'en vont à Pittsburgh et qu'ils s'en vont même à Nashville et qu'ils s'en vont à Vegas, ça fait vendre des billets. C'est la même affaire quand Connor McDavid se promène aux États-Unis dans plusieurs villes américaines. Tu sais, je pense que moi j'ai connu encore, ça doit être mon âge là, mais j'ai connu en tant que descripteur les années où on n'avait pas ce calendrier équilibré. C'est-à-dire que le Canadien, ben oui, par exemple, allait à Los Angeles une fois par deux ans.
Oui.
Et les Kings venaient à Montréal une fois par deux ans.
C'est ça.
Qu'est-ce qu'on disait dans ce temps-là? On disait maudit que c'est plate.
Ben
on voit pas les Kings, on peut pas voir l'Avalanche et tout ça. Alors, tu sais, quand il y a un conflit de travail qui a éclaté, et quand on est revenu, on a dit non. On veut que toutes les villes puissent voir les équipes, et surtout, Jérémy, c'est toujours penser en fonction des revenus. Je t'entendais tantôt avec Alex, notre ami, puis parler du baseball puis des règlements. C'est la même affaire au hockey. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on s'est dit, comment est-ce qu'on ferait pour vendre plus de tickets, pour faire tourner le tourniquet? Ben c'est ça, c'est de permettre aux gens de voir le plus possible d'équipes, puis de voir les vedettes un peu partout, de pouvoir voir Crosby, de pouvoir voir McDavid, on le voit en masse, là, mais tu sais, de pouvoir voir d'autres vedettes dans la Ligue nationale.
Je me demande si on pourrait pas garder la division canadienne en jouant peut-être, je sais pas, mettons tu joues six fois contre chaque équipe là à peu près, mais qu'on revienne à la formule précédente, c'est-à-dire que tu joues contre tout le monde au moins deux fois dans l'année, une fois sur la route, mais ta division c'est la division canadienne, fait qu'on pourrait garder les genres de, je sais pas moi, les séries de trois matchs en quatre jours. Tu vas à Vancouver, tu y vas une fois, tu joues tes trois matchs en quatre jours, c'est fait.
Ben,
je sais pas ce que t'en penses.
Écoute, moi je garderai pas la division canadienne parce que honnêtement là, je pense que dans un mois et demi, puis ça s'en vient tranquillement là. Moi je m'ennuie des Bruins de Boston, je m'ennuie du Lightning de Tampa Bay. Tu regardes les Panthers de la Floride, là, je commence même à m'ennuyer des Panthers, imagine-toi là. Je m'ennuie des Flyers.
Ça c'est à cause du soleil de la Floride, c'est pas à cause.
Non, mais je te dis, je m'ennuie même des Sabres de Buffalo.
Non, mais c'est vrai.
C'est vrai, non, mais je te dis, crois-moi, je le dis avec mon cœur, là, c'est vrai, je le pense, parce que je pense que le Canadien a cultivé des rivalités avec ces équipes-là, puis c'est essentiel. Par contre, là où je te rejoins un petit peu, c'est que j'ai l'impression que quand on va construire le calendrier, le prochain calendrier non-COVID, là, le calendrier de 82 matchs, on va vouloir sauver de l'argent encore, Jérémy.
Ouais,
alors, il est possible que quand le Canadien va aller dans la région de New York, exemple, il y aura plus de ce qu'on appelle là, des back and forth Montréal puis ce coin-là 3-4 fois. Probablement que quand le Canadien va aller s'installer dans la région de New York, ils vont jouer probablement toutes les équipes du coin. Ils vont passer 8-9 jours là-bas puis ils vont jouer toutes les équipes du coin. Ça, je pense que ça pourrait arriver pour, encore une fois, pas faire plaisir aux amateurs vraiment, mais rationaliser les coûts.
Carey Price ce soir devant le filet.
Price ce soir devant le filet. Alors on s'attend déjà là. Jake Allen hier allongé sa période d'entraînement. Il le fait encore aussi aujourd'hui. Alors vraisemblablement demain soir à Ottawa, ce sera Jake Allen là. Puis on va travailler comme ça. Puis je le rappelle encore une fois là, Byron rentre dans l'alignement. Perry n'y sera pas. Kulak est également retiré parce qu'on va garder le troisième duo Mété-Romanov intact et Frolik. Est revenu sur l'équipe de réserve, lui qui avait passé la semaine en période de reconditionnement avec le Rocket de Laval.
Excellent. Merci beaucoup, Martin. On te retrouve à 18h avec Danny Dubé, bien sûr, pour ce match entre les Canadiens et les Maple Leafs ce soir. Coup d'envoi à 19h07-08 approximativement. Merci beaucoup, Martin. Salut.
À tantôt, Jérémy.
Bye-bye. On fait une petite pause au retour de ceci. On va parler de boxe. Pourquoi? Parce que Yvon Michel, hier, a présenté publiquement son plan pour l'année 2021, son année de boxe, puisqu'il n'y a pas eu de boxe en 2020. Alors, on va lui demander comment tout cela va se passer. Vous écoutez les amateurs de sport week-end sur une station Cogeco.